BFM Radio. BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin et Laurent Valdiguier.
Affaire suivante numéro 283, soyez les bienvenus au sommaire de ce dimanche. Le procès de l'horreur qui s'est tenu cette semaine devant les assises de l'Hérault. Comment une mère a-t-elle pu frapper, humilier, affamer sa fille jusqu'à la mort? Amandine avait 13 ans quand elle est morte, elle pesait 28 kilos. Sa mère a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité vendredi. Récit d'audience dans un instant. On va revenir aussi ce dimanche sur les aveux de Monique Olivier. La femme de Michel Fourniret a reconnu pour la première fois avoir participé à l'enlèvement et au meurtre de Lydie Loger. Cette jeune femme de 29 ans disparue il y a 30 ans. Monique Olivier a été ramenée sur les lieux cette semaine. La famille de Lydie Loger attend des réponses précises. On va tout vous raconter dans un instant. Et puis, nous reviendrons sur ce témoignage exclusif. La première fois que la femme de Dino Scala se confie, elle a parlé à notre confrère Plana Radenovic. Elle raconte comment son mari menait une double vie pendant des années. Comment Dino Scala, quand il lui disait qu'il l'aimait, allait en même temps agresser et violer des jeunes femmes au petit matin. Elle raconte sa honte, ses regrets, ses remords, mais aussi la vindicte populaire. Plana Radenovic sera notre invitée pour nous raconter cette rencontre. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Affaire suivante, ça commence tout de suite.
BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin et Laurent Valdiguier.
C'est le procès d'un huis clos familial absolument atroce qui s'est tenu cette semaine devant les assises de l'Hérault. Le procès de la mère et du beau-père de la jeune Amandine, morte le 6 août 2020. Une enfant martyr qui passait ses journées enfermée dans un débarras. Amandine était humiliée, frappée, affamée le jour de sa mort. Elle n'avait que 13 ans et elle pesait 28 kilos. Sa mère a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Comment un tel drame a-t-il pu se produire? Récit d'audience, explication avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, retour sur ce procès avec Elisa Trana.
À la barre, elle a avoué être une mère monstrueuse. Sandrine Pissarra a enfin reconnu les actes de torture et de barbarie qui ont conduit à la mort de sa fille. À 13 ans, Amandine ne pesait plus que 28 kilos. Les médecins légistes n'ont pu que constater ses yeux enfoncés, ses dents cassées et ses cheveux éparses.
Comme en plus elle avait des lésions cutanées, eh bien, les germes sont rentrés par ces lésions cutanées et des germes particulièrement agressifs qui contaminent en général les sujets dénutris, s'entraînent une septicémie.
Dès l'âge de 2 ans, la petite fille devient le souffre-douleur de sa mère, à cause notamment de sa ressemblance avec son père, dont Sandrine Pissarra est séparée. Les gifles, les tirages de cheveux et les privations de nourriture font partie du quotidien, comme le raconte le petit frère d'Amandine.
Ma mère frappait sa tête contre les murs pour un oui ou pour un non. Moi aussi j'étais frappée, mais moins qu'elle.
Dans cette petite rue Rousseau, Amandine passe la plupart du temps enfermée dans un débarras, sans manger, contrainte de noircir des lignes d'écriture jusqu'à l'épuisement. Sa mère l'oblige à vivre nue pour éviter qu'elle cache de la nourriture dans ses vêtements. Ses seuls moments de répit, c'est à l'internat du collège, alors quand le confinement est décrété. La petite victime comprend que le piège va se refermer sur elle.
Elle s'est effondrée en larmes. Et en fait, elle ne parlait pas juste, elle était en sanglots. Et en fait, elle m'a dit « je vais mourir ». Frappée, oui, on s'en doutait. Un signalement a été fait, puis un autre, on en a fait 3 en total dans l'année.
Ces signalements, comme tous les autres déposés depuis l'école primaire, n'ont pas donné lieu à des suites pénales. Il aura fallu attendre la mort d'Amandine le 6 août 2020 pour que ses bourreaux, sa mère et son beau-père, soient mis hors d'état de nuire.
Le procès de l'horreur. Il n'y a pas d'autres mots, évidemment, pour évoquer ce procès qui s'est tenu cette semaine, sur lequel on va revenir avec Emmanuel Anison. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, grand reporter au Nouvel Obs. Vous avez couvert ce procès. On a pu vous lire et évidemment, on a beaucoup de questions à vous poser avec Laurent Valdiguier. Bonjour Laurent.
Bonjour Philippe.
Il m'accompagne cette semaine. D'abord, les procès, c'est toujours aussi, même pour les journalistes, un moment humain. Cette affaire, elle est particulièrement terrible. Comment vous l'avez vécu humainement?
Oui, il y a eu des moments très compliqués lors de ce procès, et notamment un moment où le président du tribunal a tenu à montrer les images de cette petite fille, parce que tant que ça reste en fait théorique, on est dans son métier, et c'est vrai que quand on voit ces images qui étaient absolument épouvantables, hein, vraiment d'une petite fille qui était enfermée dans un cagibi avec un corps famélique Quelqu'un, pendant le procès, a parlé des images sorties de camp. C'est-à-dire qu'on se dit c'est pas possible, mais quand on voit le corps, on voit ce corps qui n'a plus que des os sur le squelette. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup de journalistes qui ont un peu basculé à ce moment-là, beaucoup d'entre nous, on a pleuré. Parce que juste, on reste évidemment humain et que c'est inimaginable de penser que cette petite fille dans cet état-là était regardée à travers une caméra de surveillance par sa mère qui tricotait devant et par son beau-père que tout le monde qualifiait d'employeur modèle de citoyen honnête et d'homme extrêmement gentil et qui disait je n'ai pas vu. Et tant qu'il disait je n'ai pas vu et qu'on n'avait nous pas vu ces images, on pouvait imaginer qu'il n'avait pas vu. Mais quand on voit ces images d'une fille nue en plus parce qu'elle était maintenue nue avec vraiment ce corps totalement décharné et dont on voyait bien qu'il était aux portes de la mort, on ne peut pas juste rester journaliste à ce moment-là. On est humain et on se dit comment peut-on arriver à cette horreur qui est une horreur de gens qui, quand on les regarde à la barre, semblent, enfin vraiment, l'impression d'avoir des personnes totalement lambda.
Il faut que vous nous racontiez ce qu'elle a vécu parce que ce procès a permis de comprendre, d'imaginer le calvaire qu'elle a vécu. Quel était son quotidien ?
Alors. Cette petite, depuis enfant, depuis 3 ans, il y a des marques de maltraitance sur cette petite. Hein. Des bleus à l'école, des cheveux arrachés. Voilà, donc elle a vécu un quotidien qui est un quotidien d'enfant maltraité. Comme ses frères et sœurs, mais elle était le vilain petit canard et donc elle était l'objet particulièrement de la violence de cette maman. Mais avec le confinement... quelque chose a basculé parce qu'elle s'est retrouvée dans un face-à-face familial. Et là, la maltraitance s'est accentuée. Et elle s'est accentuée dans ce huis clos absolument terrible qu'est le confinement. Mais elle a continué même au-delà du confinement pendant 6 mois. Et cette petite fille, c'était alors des coups, ce qu'elle avait toujours vécu, des coups de balai, des punitions pendant des heures où elle était à genoux sur un rouleau dur qui faisait que ça lui meurtrissait les genoux. Et puis surtout... elle était obligée aussi de faire le ménage toute nue parce que sa mère disait qu'elle volait la nourriture et pour cause puisqu'elle était affamée. Mais donc en fait, elle était obligée d'être toute nue toute la journée, ce qui est pour une petite fille de 13 ans, vous imaginez ce que c'est. Et puis elle était enfermée dans un cagibi. En fait, au fur et à mesure des jours du confinement, elle a été enfermée. C'est-à-dire qu'au début, elle était encore au bout de la table de la famille, à manger différemment des autres enfants. Comme punition. Et puis, au fur et à mesure, en fait, elle s'est effacée. Elle s'est effacée, elle est restée dans ce cagibi, enfermée, surveillée par ses caméras de surveillance, affamée, peut-être même assoiffée, on ne sait rien. Et elle a disparu, y compris aux yeux de ses propres frères et sœurs, qui ne la voyaient qu'à travers ses caméras de surveillance. Et donc, on imagine la torture que c'était, sachant qu'en plus, elle était à côté d'un congélateur avec des aliments congelés qu'elle avait sous les yeux en permanence, qu'elle ne pouvait pas manger. Et elle a vécu en plus avec cette solitude absolument extrême, parce que tant qu'il n'y avait pas eu de confinement, il y avait encore ce rapport de force avec l'école où elle était en internat, où elle pouvait se récupérer, voler des goûters, manger, alors que là, elle se retrouvait évidemment totalement abandonnée à la seule folie en fait de sa famille, de sa maman, pardon, avec la complicité plus ou moins active du beau-père et de ses propres frères et sœurs. Donc on imagine le désespoir moral de cette petite.
Oui, parce que ce qui signe le fait que tout le monde savait, ce sont les dernières heures. Parce qu'ils se rendent compte qu'elle est mourante dans les dernières heures. Ils se rendent compte qu'elle est presque morte, hein, Amandine. Et puis là, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'appellent pas la police, ils n'appellent pas les pompiers, ils la maquillent, ils la douchent, ils essayent de lui donner à manger. Et au fond, dans ces dernières heures, qu'est-ce qu'ils maquillent? Pas Amandine, ils maquillent leur propre crime. Leurs 10 ans, comme vous l'avez dit, Manuel, de sévices, de supplices. Et là, on se dit, mais pourquoi cette fratrie? Il y a 8 frères et sœurs. Hein, ils sont, je crois qu'elle a 8 enfants de 3
maris
différents.
Oui, alors dans la maison même, il y avait un frère et une sœur de 10 et 14 ans.
Pourquoi toute cette fratrie n'a pas bougé plus tôt?
Alors, parce que d'abord, la fratrie était elle-même violentée. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui eux-mêmes ont subi tous les violences de la maman. Donc, il y a ce rapport, évidemment, victime-parent. Enfin, c'est très compliqué. Il y a la loyauté d'un enfant par rapport à ses parents, à sa maman. Il y a aussi cette peur d'être séparé de ses parents. Eux-mêmes le disaient. Ils avaient peur d'être placés en accueil. Ils avaient peur des représailles. C'est-à-dire que dire qu'il y a des problèmes, ça peut aussi, après, subir des représailles et des punitions encore plus importantes. Il y a quand même une parole hein, pendant toutes ces années. C'est-à-dire que Amandine elle-même, et c'est ça oui. qui est complètement fou dans cette histoire, et c'est là aussi que cette histoire dépasse le simple... comment dire, fait divers sordides. Il y a un problème sociétal derrière tout ça, c'est que cette petite fille a été abandonnée. On en parlera
bien
après.
Et parler aussi des alertes qu'elle avait données au collège.
Voilà, elle l'a parlé, cette petite fille a osé parler justement.
On va accueillir Maître Florent Médicot, bonjour, merci de nous avoir rejoint. Vous êtes l'avocat du père biologique d'Amandine. On a parlé de sa mère, on a parlé de son beau-père, vous êtes l'avocat du père biologique. D'abord, clarifions quels étaient ses liens et ses rapports avec Amandine. Il n'a rien vu, il n'a rien su.
Alors, il y a eu plusieurs étapes. Tout au long de l'existence et d'Amandine et de mon client. Sur les trois dernières années concernant la vie d'Amandine, il ne l'a effectivement plus vue. Mais il faut connaître le dossier en totalité pour comprendre qu'en réalité, c'est issu d'une manipulation de Madame Pissara qui n'a eu que de cesse que d'écarter mon client de la vie de sa fille. Et à partir de 2017, elle y est arrivée. Elle y est arrivée en manipulant l'autorité judiciaire notamment, et en parvenant à une restriction telle des droits de visite et d'hébergement de mon client qu'il n'était pas même en mesure de les exercer d'une part, et d'autre part, c'est-à-dire de l'autre côté du miroir, elle indiquait à ses enfants que leur père ne voulait plus les voir. Donc si vous voulez, il y a eu un espèce de cercle vicieux, organisé, fomenté par Madame Pissara, qui fait que les enfants pensaient que leur père ne voulait plus les voir, et leur père, de leur côté, essayait de les voir avec, en retour, « Ah mais papa, tu veux pas nous voir, tu ne t'occupes plus de nous, tu ne payes pas la pension alimentaire. » Ce qui était faux. Et donc, une rupture des liens quasi totale sur ces trois années concernant Monsieur Florès.
Comment a-t-il vécu ce procès? Comment a-t-il accueilli le verdict, la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 20 ans pour la mère d'Amandine?
Le procès a été très difficile à vivre. Très difficile à vivre parce que, d'une part, il a été confronté alors à une réalité dont il avait connaissance, mais à une réalité niée de la part des co-accusés. Il est aussi venu porter sa culpabilité à la barre, en reconnaissant avoir lui-même été sous le joug de Madame Pissara au moment, alors d'une part de la vie commune, mais d'autre part, il y a une période de séparation où il s'entendait quand même hein, pour voir les enfants... Et exercer.
Il restera un élément sur lequel, d'ailleurs, il aura peut-être à s'expliquer.
Alors, il n'aura pas à s'expliquer dans la mesure où il y a une information judiciaire, qu'aucune charge n'a été reconnue à son encontre, et qu'il a parfaitement expliqué les choses. Ce qui est paradoxal dans ce dossier, c'est qu'on a senti plus de culpabilité du côté des bancs de la partie civile que du côté des accusés. Donc, lui pense à sa fille tous les jours. Il sait que il y a un moment où il aurait dû lever la tête. Ça remonte à des années, et au moment où il a décidé de lever la tête, c'est-à-dire dans les années 2017, c'est l'autorité judiciaire qui lui a dit « Monsieur, on ne vous croit pas. On estime que vous ne voulez pas voir vos enfants, et votre femme, on lui donne blanc-seing pour s'en occuper. »
Je vais reprendre votre expression. Personne n'a levé la tête. À l'école, il y a cette scène absolument terrible, juste avant le confinement, parce qu'on a bien compris que le confinement avait été un accélérateur. Où Amandine, quand elle apprend le confinement, dit au collège, c'est fini pour moi, je vais mourir.
C'est ça qui est terrible, c'est que cette petite fille, elle a été abandonnée, désolée, mais par les adultes autour d'elle, y compris les adultes hommes, qui effectivement étaient sous emprise de cette maman, telle que le beau-père, mais aussi telle que son père, sans doute, mais elle a été abandonnée par les adultes, les hommes, qui auraient dû la protéger, qui ne l'ont pas fait. Et puis, les institutions. Et dans les institutions, il y a effectivement l'école, puisque plusieurs fois, elle a donné l'alerte, plusieurs fois, il y a eu des signalements. Donc, il y a quand même eu une prise de conscience de certaines écoles dans lesquelles elle était, mais à ce moment-là, la justice n'a pas suivi. Et effectivement, on arrive à ce moment du confinement. Elle a 13 ans, elle a déjà parlé plusieurs fois. Ça n'a jamais été suivi des faits. Jamais il y a eu de mesures d'assistance éducative pour la protéger, elle et ses frères et sœurs, mais elle particulièrement, malgré ses alertes. Et là, elle sait que ce confinement va être terrible. Elle le pressent, c'est ça qui est dingue. Et donc, elle crie dans cette cour. Les enfants sont ravis parce qu'ils savent qu'ils vont avoir 2 mois de vacances. Et elle pleure, elle est assise dans la cour, elle pleure. Et autour d'elle, ses camarades, ses amis pleurent parce qu'elle leur a déjà parlé. Parce que à chaque fois qu'elle rentrait chez elle, le week-end, elle pleurait parce qu'elle savait qu'elle allait être affamée, elle savait qu'elle allait être battue. Et donc là, elle a senti qu'elle était extrêmement en danger. Donc elle pleure et il y a une surveillante qui est là, qui voit ses pleurs, qui... Mais le collège, en fait, à ce moment-là, est dans... Alors, pour le coup, dans une situation, on le sait, très particulière. Le confinement a mis tout le monde dans une situation très particulière. Mais là où on peut vraiment se poser la question, c'est que pendant le confinement, elle ne s'est pas connectée, alors que les autres élèves s'étaient connectés. Et à la fin du confinement, au bout de 2 mois, elle était vivante, Amandine. Elle est morte que 4 mois après. Et à la fin du confinement, des élèves sont rentrés. Elle n'est pas rentrée. Des élèves sont restés en distanciel, mais ils ont été chercher leurs affaires. Elle n'est pas allée chercher ses affaires. Sa maman n'est pas venue chercher ses affaires. Elle n'a pas donné signe de vie. Tout le système éducatif savait qu'elle était en danger et personne n'est allé frapper à sa porte.
Mais est-ce qu'à quelqu'un à l'audience est venu rendre compte de ça, s'expliquer, s'excuser ?
On a eu quand même la surveillante qui est venue témoigner, qui n'avait pas été auditionnée lors de l'information judiciaire. Et alors, un mot, vous me questionniez sur mon client. Il faut savoir qu'à ce moment-là, quand Amandine semble en réalité presque pressentir ce qui va arriver, c'est ça qui est terrible, elle va se tourner vers son père. C'est-à-dire que ça fait 3 ans qu'il lui est interdit ou caché par sa mère que de savoir que son père veut la revoir. Et on a un appel de 3 quarts d'heure durant lequel elle appelle son père, elle lui dit « Papa, je t'aime, je vais bien, je t'explique ce que je fais, je reprends contact avec toi, il faut qu'on se voie, etc. »
Et lui ne sent pas à ce moment-là l'urgence.
Parce qu'Amandine, en fait, ça a été... dit de manière très juste à mon avis, Amandine aimait profondément son père. Je pense que c'est aussi ce qui a participé de son calvaire face à sa mère. Et sur cet appel téléphonique, elle le préserve très certainement de ce qui est en train de lui arriver. Il faut savoir que les experts ont déterminé, on s'est beaucoup posé la question du comportement de cette maman dans ce dossier. Il y a 2 éléments essentiels. Le premier élément, c'est que cette petite était profondément attachée à son père. Et le 2e élément, c'est qu'elle s'est levée contre la tyrannie de sa mère. Et c'est une petite résistante, en réalité, qui a subi la rage d'une forme de totalitarisme familial.
Je voudrais qu'on dise un mot pour conclure de cette mère, qui reste quand même un mystère. Elle a très peu parlé, elle a eu beaucoup de mal à reconnaître les faits, elle a fini par le faire, j'ai envie de dire à minima, je parle sous votre contrôle. Elle a eu cette phrase, je suis une mère monstrueuse, mais c'est à peu près... les seuls sentiments, s'il y avait encore des sentiments dans cette phrase. Qui est-elle ?
Alors, ça restera un mystère, puisque les experts psychiatriques disent que ce n'est pas une psychopathe.
Oui.
Elle a pleuré à un moment, c'était sur son propre sort, qui était de celle, effectivement, elle a eu des actes de violence dans son enfance. Et donc, elle s'est beaucoup étendue à ce moment-là. Et à ce moment-là, elle a pleuré. Mais quand les images de sa fille étaient diffusées lors de l'audience, elle a gardé, et pendant d'ailleurs toute l'audience, elle a gardé les yeux baissés obstinément, absolument pendant les 5 jours. Donc, et en ne montrant vraiment aucun affect. Donc, c'est vrai que cette femme reste un mystère. Et c'est pour ça que je réinsiste sur le fait que la question de la psychopathie de cette femme, enfin, qu'on ne résoudra pas, que personne n'a résolu, il y a la défaillance de la société. Parce que des gens pervers, des gens toxiques, des gens maltraitants, on en aura. En revanche, que la société, y compris les adultes autour d'elle, parce que son père, à partir du dernier coup de téléphone en mars, ne l'a jamais eu au téléphone ensuite, jusqu'au mois d'août.
Non, il a eu quand même des nouvelles de la part de la mère, qui toujours dans ce même esprit, lui a envoyé notamment un message lui indiquant « Ne t'inquiète pas, les enfants, on est dans le courant du mois de juillet. Les enfants vont bien, ne t'inquiète pas, ça va aller. »
En tout cas, les adultes ont été défaillants. Profondément, je pense que ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est celle-ci. Il y avait 4 ou 5 associations de défense des enfants qui étaient là au procès, ce n'est pas pour rien. Et donc, on a, nous, collectivement, encore tellement à faire sur ces enfants qu'on appelle des enfants transparents, des enfants qui sont... en fait, Amandine s'est effacée.
Et elle n'est pas transparente, il y a son visage derrière vous. Et c'est aussi l'image qu'on gardera de ce procès absolument terrible. Merci beaucoup d'être venus tous les deux sur le plateau d'Affaires Suivantes. On se retrouve dans un instant et on évoquera les aveux de Monique Olivier, la femme de l'ogre des Ardennes, a reconnu pour la première fois avoir participé à l'enlèvement et au meurtre de Lydie Loger, une jeune femme de 29 ans, disparue il y a 30 ans. Monique Olivier a été transportée sur les lieux cette semaine. La famille de Lydie Loger attend des réponses précises. Est-ce qu'elle les aura ? On va tout vous expliquer dans un instant.
BFM Radio.
Qu'est-ce
Qu'est-il arrivé à Lydie Loger? Cette question hante depuis plus de 30 ans sa famille. Cette jeune femme de 29 ans s'est comme volatilisée. C'était le 18 décembre 1993. Ce jour-là, elle avait fait quelques courses de Noël, acheté un sapin, mais en quelques minutes, elle va disparaître. La piste fournirait à l'étude depuis plusieurs années s'est considérablement étoffée cette semaine grâce à Monique Olivier, la femme de l'ogre des Ardennes, a avoué avoir participé à l'enlèvement et à la mort de Lydie Loger. Pendant plusieurs jours cette semaine, elle a été transportée sur les lieux pour tenter de retrouver le corps de Lydie Loger. Tous les détails dans un instant avec nos invités, mais d'abord, retour sur cette semaine cruciale avec Elisa Tran.
Monique Olivier a été extraite de sa cellule pendant 3 jours. 3 jours pour en dévoiler un peu plus sur son rôle dans l'enlèvement, la tentative de viol et le meurtre de Lydie Loger en 1993. 3 jours à parcourir l'Orne pour retracer les dernières heures de cette mère de famille tuée par Michel Fourniret.
Madame Olivier a donné des précisions. Quand j'ai des précisions, ce sont vraiment des précisions sur l'endroit. Donc maintenant, les cartographes vont faire leur travail. Compte tenu de l'endroit décrit, si on le trouve, je pense qu'on peut retrouver le corps de la victime.
La femme de l'ogre des Ardennes a été amenée devant cette maison où vivait Lydie Loger. La jeune maman de 29 ans, divorcée, disparaît un 18 décembre après une journée de course avec une amie dans le centre-ville d'Argentan.
On sait que quand elle rentre, elle dépose ses courses de Noël et à partir du dernier contact téléphonique avec sa famille aux alentours de 19h-20h, on n'a plus de nouvelles d'elle. Donc ça se passe chez elle ou aux alentours de chez elle.
Lydie Loger a été repérée puis suivie jusqu'à chez elle par le couple Fourniret. En 2018, son ADN est retrouvé dans la camionnette du tueur, qui reconnaît à demi-mot
« Je ne crois pas que cela puisse être quelqu'un d'autre que moi qui ait mis fin à son parcours de vie. »
Il évoque même dans ses écrits une carrière où, selon lui, il n'est pas impossible qu'il y ait déposé un cadavre. Entendue à plusieurs reprises l'an dernier, Monique Olivier, 76 ans, est aujourd'hui la seule personne à pouvoir dire où se trouve le corps de Lydie Loger.
Alors saura-t-on la vérité? Monique Olivier va-t-elle en dire plus? On va essayer de vous apporter des réponses avec Thomas Proutot. Bonjour.
Bonjour,
journaliste à RTL, chef du service police-justice. C'est vous qui avez sorti cette information sur Monique Olivier cette semaine. Vous allez nous raconter tout ça. Michel Fine, bonjour Michel.
Bonjour.
On est ravis de vous retrouver, journaliste indépendante, autrice notamment du livre « Dans le cerveau du tueur, l'affaire Monique Olivier, Michel Fourniret, c'est chez Fayard ». Merci d'être avec nous. D'abord, disons peut-être un mot de Lydie Loger, parce que cette affaire, les gens l'ont peut-être un peu oubliée. C'était un mystère absolu jusque-là. Lydie Loger, elle fait ses courses de Noël, elle rentre chez elle, elle appelle sa mère, sa tante à 19h, et puis après, plus rien.
Elle disparaît totalement. Il n'y a plus aucun signe de vie, plus d'appel. Sa sœur a une mauvaise intuition, elle l'a raconté, ouais. Sa sœur Sophie a une très mauvaise intuition, et elle va appeler à très, très nombreuses reprises ce téléphone qui ne sonne pas, prévenir les gendarmes assez vite, finalement, ouais. Le lendemain. Et assez vite aussi, elle se rend compte que l'enquête, elle va pas aller dans le sens qu'elle aurait espéré, puisque l'idée comme ça, qui était amenée par les gendarmes, telle qu'elle le rapporte, oui. C'est que c'est une adulte, elle a disparu, elle a peut-être de bonnes raisons d'être partie, et qu'il faut pas s'inquiéter pour l'instant. Donc il y a une disparition qui est
sauf
très inquiétante.
Sauf qu'on se retrouve avec une voiture, les clés sur le contact, les cadeaux encore dans le coffre.
Oui, voilà.
Rien n'est organisé si c'était une fuite.
Il n'y a rien qui colle, en fait, pour qu'elle puisse partir, mais on ne va pas partir sur une enquête criminelle au départ. Et certainement, d'ailleurs, dès le départ, du coup, manquer un certain nombre d'indices ou d'actes qui auraient pu être déterminants.
On a une disparition totale, on a ce mystère total pendant des années, et puis il y a la piste Fourniret qui vient s'inviter dans cette affaire, qui n'était qu'une piste, qui va se confirmer avec les informations que vous révélez cette semaine. Pourquoi est-ce qu'on pense à Fourniret? Il était dans le coin à ce moment-là, Michel. Pourquoi est-ce qu'on se dit Fourniret pourrait être peut-être responsable de la disparition de Lydie Loger?
Parce qu'il y a un ADN. Parce qu'après, pas mal d'années après...
Retrouvé dans la camionnette.
Oui, le procès Fourniret, les Belges ont saisi la camionnette de Fourniret, ils l'ont totalement ratissée, ils ont même fait des sachets où ils ont pris la poussière. Ils ont pris, je crois, 600 poils, les cheveux, etc. Et en 2016, l'Office central de répression des violences faites aux personnes, donc la police, a l'idée de comparer ces ADN aux ADN de jeunes femmes disparues en France. Donc, ils vont faire une liste d'une vingtaine de personnes. On n'a pas de fichier des personnes disparues en France, donc ils vont faire un début de fichier. Et dans ces personnes disparues, ils vont avoir l'ADN de Lydie Loger, et l'ADN de Lydie Loger va matcher avec un ADN mitochondrial qu'on retrouve sous un tapis de la camionnette de Fourniret, donc quasiment 20 ans après. Et effectivement, la piste Fourniret s'invite et Fourniret, quand Madame Kéris reprend cette enquête...
Juge du pôle de Nanterre,
va convoquer Fourniret. Et c'est le premier cas où Fourniret est le premier à avouer un meurtre.
Il dit de façon assez alambiquée,
quand même. Pas un meurtre, il dit « j'ai peut-être mis fin à ce parcours de vie ».
Il n'est pas impossible que ce soit moi qui ai mis fin à ce parcours de vie. Donc, il dit pas « c'est moi », il dit « il n'est pas impossible que... » voilà. Donc, et il est assez bavard. Et elle, au départ, elle voit pas de quoi on lui parle. Non, c'est pas vrai. Elle s'énerve, comme d'habitude, elle s'énerve au début.
Dans Fourniret, il y a un trou de 10 ans. Il tue à 7 reprises ou 8 reprises, Michel, elle est l'experte, hein, à 8 reprises entre 87 et 90. Entre 90 et 2000, il y a rien. Alors, il y a Lydie Loger qui disparaît en 93, mais c'est sur le parcours. C'est un parcours qu'ils font souvent, parce que Natacha Danet, qui disparaît en 90, qui est la dernière de cette première série, elle est dans la région de Nantes, parce que les Fourniret vont souvent voir le père de Monique Olivier à Nantes. Et donc, c'est vrai que Lydie Loger, elle est sur ce trajet dans le Calvados. C'est une piste qu'ils auraient pu suivre en 93.
Et il y en a d'autres, d'ailleurs. En Bretagne, il y a une cousine de Monique qui vont souvent voir en Bretagne. Il y a plusieurs disparitions dans ce coin-là, qui pose question.
Sur lequel Lydie Loger, on a les deux mises à vœux de Fourniret, qui donnent pas plus d'indications que ça, et puis Monique Olivier, qui n'a aucun souvenir. Et qui, tout d'un coup, entre guillemets, va retrouver la mémoire.
Alors ça, c'est effectivement ce qu'on a révélé sur RTL cette semaine, c'est ces interrogatoires du printemps dernier, chez la juge Sabine Kéris, à Nanterre, au Paul Cold Case. Elle reprend cette affaire qu'elle n'a jamais lâchée. Il y a cet ADN, il y a eu des contre-expertise sur l'ADN, avec l'ADN de Lydie Loger elle-même, puisqu'au début c'était celui de sa mère, et ça match. Donc là, il y a une quasi-certitude de l'implication des Fourniret, mais il va falloir essayer de trouver le corps. Donc ces interrogatoires, ils n'ont jamais cessé, et il y a une série d'interrogatoires en mai, après des heures et des heures. Vous savez, Monique Olivier, ça ne se passe pas comme ça. D'un coup, un matin, elle arrive et dit « voilà, je vais vous expliquer ». Elle commence à parler. Et elle commence à reconnaître qu'elle a été présente sur les lieux dans cette séquence-là. Alors qu'elle disait jusque-là, elle ne disait pas que Michel Fourniret n'était pas impliqué dans l'affaire. Elle ne disait, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Voilà. Et là, elle reconnaît qu'elle a été présente. Oui, à partir de là, tout est possible.
Bien sûr.
Oui, parce que ce qui est très impliquant pour elle, Monique Olivier, c'est que dire qu'elle était là, ça veut dire un procès pour elle. Comme elle s'est déjà accusée elle a dit qu'elle avait joué un rôle dans l'enlèvement, dans la séquestration d'Estelle Mouzin. Alors, donc là, c'est vrai qu'elle semble s'impliquer.
Alors, il y a un paradoxe, pour ce qu'on en sait, c'est qu'en fait, Monique Olivier ne veut pas de nouveau procès. C'est ce qu'on nous dit, elle ne veut pas de nouveau procès. Elle a très mal vécu le dernier procès
elle
de décembre d'Estelle Mouzin, tous les procès. Parce qu'elle redevient la grande criminelle, l'horrible personnage atroce. Et c'est paradoxal, mais elle n'aime pas ça. Donc, le pourquoi de ces aveux est quand même une question qui est difficile à répondre, à laquelle il est difficile de répondre de manière rationnelle. On peut constater qu'elle l'a fait. La juge essaye de l'amener à ses aveux pour les victimes, pour les familles, en l'occurrence la famille de Lydie Loger. Elle peut même être amenée à dire que c'est pour elle qu'elle le fait, mais c'est beaucoup plus irrationnel que ça, puisque l'empathie d'une criminelle comme Monique Olivier, qui pendant 20 ans a caché tellement de crimes...
Pas tout à fait tablé dessus.
Voilà.
ce qui est intéressant, Michel, et je sais que vous connaissez ça parfaitement, c'est, et Thomas le disait, c'est la manière dont Sabine Kéris arrive avec le temps, avec minutie, avec une méthode dont elle a elle seule le secret, à faire accoucher Monique Olivier de choses qu'elle n'avait jamais voulu dire, à la ramener cette semaine sur les lieux, parce qu'il y a eu pendant 3 jours un transport de Monique Olivier sur les lieux pour refaire le parcours de Lydie Loger. C'est très important de réussir à faire tout ça à Monique Olivier.
Oui. En fait, la technique, c'est d'abord de connaître le dossier parfaitement, d'avoir des preuves, d'avoir des billes. C'est un jeu de poker. Hein. Et en fait, de la ramener vers la petite part d'humanité qu'elle pourrait avoir en elle, qu'elle a encore. C'est-à-dire la traiter comme un être humain, Monique Olivier, ça fait très très longtemps qu'elle est en prison. Aujourd'hui, elle est à l'isolement. Quand elle était en prison à Rennes, elle était insultée, elle était menacée. Donc, elle avait même des gardes du corps. Hein, donc, elle s'isolait du reste de la détention. Et la juge l'a traitée, et l'a traitée lui aussi, finalement, comme des êtres humains. Mmh. C'est un peu étonnant, c'est presque un peu choquant, mais c'est ça qui a marché. C'est leur donner un café, leur donner un peu de Nutella, les faire manger ensemble avec eux, leur donner une pizza. Elle n'a pas mangé une pizza depuis je ne sais pas combien de temps, au moment d'Estelle. Donc, cette espèce de part d'humanité, vous voyez, on vous traite comme un être humain, soyez un être humain, et Madame Olivier, donnez-nous... voilà. C'est une technique qu'elle peaufine depuis 2018 et qui finit par porter ses fruits. Ouais. Pour autant, c'est extrêmement compliqué d'interroger Monique Olivier. Elle dit pas tout de suite. Il faut vraiment, comme je vous disais, c'est une partie de poker. On lui met.
On la voit là sur ces images. Alors... C'est un document BFM TV. Ces images de Monique Olivier déjà troublantes parce qu'on trouve qu'elle ne change pas beaucoup, Monique Olivier. Et on voit qu'elle est là et qu'elle sourit et qu'elle participe.
Oui, parce que elle sourit. Pourquoi ? C'est parce qu'elle est avec des gens qu'elle aime bien. Qui c'est qui est gentil avec elle maintenant? Qui c'est qui lui parle comme une personne normale? Qui c'est qui lui redonne cette part d'humanité? Son avocat, la juge, la greffière. Ce sont les seules personnes de son entourage aujourd'hui. C'est les seules personnes avec qui elle a une relation, une habitude de relation. Donc c'est peut-être ça qui fait que ça la déclenche un petit peu. Et puis il y a autre chose aussi. Il y a le jeu entre elle et lui. Et là, on dirait qu'il y a presque un jeu post-mortem. C'est-à-dire qu'avant, en 2003, 2004, quand elle a avoué les premiers meurtres, c'était elle qui avouait, d'habitude, et lui confirmait en donnant des détails. Et là, c'est un peu l'inverse. C'est lui qui a avoué en premier, et c'est elle qui confirme. Il y a toujours ce jeu, et de facto, aujourd'hui, il est mort, et ça existe encore.
On découvre ces images de Monique Olivier, c'est toujours troublant de la voir. Qu'est-ce qu'on sait de l'attitude qu'elle a adoptée durant ce transport sur les lieux? Est-ce qu'on a quelques éléments là-dessus?
On a quelques éléments, et ce qui a été extrêmement surprenant pour tout le monde, et même pour son avocat, pour ce que j'en sais, c'est qu'elle est extrêmement volontaire. Elle parle, elle a parlé depuis le premier jour, là pendant 3 jours, elle a parlé avec la volonté de parler, et avec presque avec, vous parlez du sourire, avec plaisir. C'est-à-dire, enfin, plaisir. Avec ça la rend mieux, ça la rend bien visiblement de parler sur cette affaire. Et là, il y a même, comme on le comprend, elle a jamais parlé comme ça aussi volontiers et aussi précisément. Et ça, c'est assez surprenant pour l'ensemble des gens. Même si on pensait qu'elle allait, effectivement, il y avait une bonne chance qu'elle allait pouvoir dire des choses. Là, elle parle. Elle a donné une foule d'indications, elle a confirmé un certain nombre de choses.
Précisons, le but, c'est d'essayer de retrouver le corps de Lydie Loger.
Voilà. Ça, c'est le but numéro vraiment.
32 ans après.
Numéro 1, 32 ans après d'aller retrouver le corps. Eh ben, il faut savoir que la juge Kéris y croit. La juge Kéris y croit parce que là, elle a donné une description visiblement très précise d'un lieu et que ce lieu, il est visiblement envisageable qu'on le trouve, qu'on le retrouve. Donc c'est ce qui est engagé à partir de depuis jeudi, vendredi, c'est trouver ce lieu qui a été décrit par Monique Olivier.
Ce que dit Thomas est une petite révolution, parce que Monique Olivier, même les policiers disaient, on lui posait une question, elle pouvait faire 5 minutes avant de commencer à y répondre. Au procès de Nanterre, c'était pareil. Monique Olivier, elle n'a pas d'empathie. Vous avez l'impression qu'elle va bouger sur rien, rien ne la trouble. Sauf son fils Selim au procès de Nanterre.
Alors, oui, elle s'est énervée d'un coup. Et puis sa vie, quand on parle d'elle, elle est très prolixe.
Le personnage important, c'est Richard Delgenès, son avocat, qui la connaît depuis toujours, qui était tout jeune avocat à Charleville-Mézières, qui a plaidé devant 8 roses rouges, parce qu'à l'époque, les avocats des partis civils n'avaient pas voulu être là, sa plaidoirie. C'est quand même
la clé.
C'est la clé. Et lui, il a beaucoup d'humanité. C'est vrai qu'à Nanterre, au procès, sans lui, il n'y a pas d'aveu de Monique Olivier. Et là, Thomas, vous avez raison de souligner, si elle est disponible, si elle est prête à parler, il y a le rôle de la juge, il y a aussi le rôle de son...
Elle veut lui faire plaisir, en fait. Elle l'aime beaucoup, ils ont une espèce de relation. Quand il la revoit, il parle de ses enfants, de la vie, il ne parle même pas du dossier, quoi. Et donc, il y a cette espèce de lien.
Entre eux.
Ce qui reste d'humanité.
Alors, on ne sait pas tout non plus sur ce qui s'est passé pendant 3 jours. Bien évidemment, c'est couvert par le secret de l'instruction, donc on saura peut-être plus tard plus de détails. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que la juge Samy Kéris a fait venir des comportementalistes sur la scène, sur les différents lieux qui ont été visités par le convoi judiciaire. Et ces comportementalistes ont été visiblement très importants pour rassurer, pour faire en sorte que Monique Olivier se sente bien dans ce récit, dans ses aveux qu'elle fait. Ces déclarations qu'elle a fait pendant 3 jours. C'est assez inédit aussi. On ne sait pas tout exactement. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas exactement quels sont ces comportementalistes, d'où qui sont-ils exactement, mais ils sont présents. On en voit, je pense, une sur un des plans de BFM, une dame là qui lui pose la main sur le dos, qui la rassure. Et visiblement, ça a aussi participé à cette séquence assez inédite, comme le disait Laurent, sur les aveux de Monique Olivier.
Elle ne cesse d'innover, Madame Kéris. Mm-hmm. Elle va chercher des techniques du FBI, elle va chercher des techniques d'interrogatoire des Canadiens, qu'on n'a pas du tout, hein. Elle s'est formée elle-même, hein. Elle est allée voir les gens du FBI à l'ambassade des États-Unis en disant « s'il vous plaît, formez-moi », quoi, parce qu'elle connaissait pas les tueurs en série. Elle est allée chercher un archéologue pour faire des fouilles. Enfin, c'est
et on voit tout le travail qui porte ses fruits. Merci beaucoup à vous deux sur le plateau d'Affaires Suivantes. On va continuer évidemment à suivre cette affaire. Tout de suite, les invités de la semaine. C'est la première fois qu'elle parle, la femme de Dino Scala, alias le violeur de la Sambre, est sortie du silence cette semaine. Notre confrère Planar Adenovic a recueilli son témoignage. Cette femme a dormi pendant des années aux côtés d'un homme qui, au petit matin, allait violer des jeunes femmes, les agresser. Un homme qui lui a menti toute sa vie, un homme dont elle a choisi de ne pas divorcer. Témoignage extrêmement fort que va nous raconter Planar Adenovic dans un instant sur ce plateau. Mais d'abord, retour sur Dino Scala et sur ce que cette femme a vécu, sans le savoir, avec Elisa Trana.
Lorsqu'elle le voyait partir le matin à l'usine, au volant de sa Peugeot 206 grise, l'épouse du violeur de la Sambre n'imaginait pas un instant qu'il s'en prenait à des femmes le long de cette rivière franco-belge qu'il longeait. Dino Scala était un père dévoué, un mari prévenant, selon elle. L'ouvrier était investi dans la vie associative locale, son casier judiciaire était vierge, un monsieur tout le monde, en somme. Et pourtant, pendant 30 ans, l'homme a commis plus d'une cinquantaine de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles, sans jamais être inquiété. Le prédateur s'en prenait aux femmes ou aux adolescentes, souvent à l'aube, en hiver, sur la voie publique. Il les entraînait ensuite à l'écart, sous la menace. Arrêté en 2018, grâce à la vidéosurveillance d'une commune, il a été condamné 4 ans plus tard, à 20 ans de réclusion criminelle.
Ce témoignage extrêmement fort. Première fois que la femme de Dino Scala s'exprime. Planar Adenovic, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste police-justice à RTL. C'est vous qui avez recueilli ce témoignage. Vous êtes co-autrice aussi de Semble l'autre rive aux éditions Michalon. Paul Bensoussan, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté votre invitation. Vous êtes psychiatre, expert judiciaire et vous avez expertisé Dino Scala. D'abord, Planar, vous l'avez eu en face, cette femme. Quel a été votre ressenti, votre sensation, une femme dont on vient de voir qu'elle a vécu un calvaire sans le savoir?
Oui, mon ressenti, c'est que c'est une femme détruite, une femme qui aujourd'hui peine même à se lever le matin. En fait, c'est quelqu'un qui a tout perdu du jour au lendemain et c'est quelqu'un qui, pendant des années, ne s'est douté de rien, ne s'est rendu compte de rien et dont la vie a basculé. L'arrestation de son mari en 2018.
Écoutons un premier extrait, justement, quand elle raconte comment sa vie bascule.
Alors, ce matin-là, Dino est parti travailler. Et donc, j'étais sale. Je me suis dit que j'avais le temps, que je pouvais dormir, qu'il faisait froid. Donc, je me suis rendormie. Et puis, en sursaut, un coup de sonnette. J'entends Dino dire « Faites attention, il y a un chat, on met la clé dans la porte. » J'ai dit « Il y a eu accident, c'est pas possible. » Il me dit « Il y a la police, c'est la police. » Donc puis là, je vois défiler facilement une quinzaine de policiers en civil. Je me mets dans le salon. Et là, on me dit, votre mari est en garde à vue. Je dis, je peux savoir pourquoi. Et là, on m'annonce viol. Je dis, non, c'est pas possible. Ça me dit, un viol. Mais non, ça, pour moi, c'était inimaginable.
Plana, cette séquence, c'est terrible. C'est d'une violence absolue pour elle. Tout s'effondre.
Oui, tout à fait. Et puis, je trouve que, pour le coup, elle le raconte bien parce qu'on l'imagine vraiment. Enfin, on est au tout petit matin, elle est en pyjama, elle entend du bruit. En fait, c'est 15 policiers de la police judiciaire de Lille. Et puis, eux, ils lui disent pourquoi ils sont là. Pour viol au pluriel, en plus. Donc, il suffit d'imaginer. Elle m'a dit qu'elle était presque comme dissociée à ce moment-là. Vous savez, des épisodes traumatiques, On se sent des fois, voilà, pas tout à fait dans l'épisode comme spectatrice de cette chute, en fait.
Ça nous ramène, Paul Bensoussan, à Dino Scala, évidemment, et j'allais dire à son ADN. Cette femme qui dort avec lui toutes les nuits, avec qui il élève ses enfants, avec qui elle va au club de foot, enfin, une vie parfaite. Elle ne voit rien. Elle n'imagine rien. Elle s'en veut, d'ailleurs, on va entendre d'autres extraits. Mais c'est exactement, j'allais dire, la force de Dino Scala que d'avoir trompé absolument tout le monde.
C'est même pas une duplicité, c'est pas une tromperie, c'est vraiment la force de ce mécanisme de défense qu'on appelle le clivage, qui fait que coexistent chez une même personne deux personnalités antagonistes. Et il y a une telle efficacité de cette défense qui clive, qui cloisonne la personnalité, qu'elle entraîne une cécité psychique de l'entourage. Donc il y a toujours un séisme quand l'affaire est dévoilée, c'est un véritable séisme, et surtout il y a un temps de latence pour que l'entourage puisse réaliser. Souvenez-vous de Gisèle Pellicot, j'ai également expertisé Dominique Pellicot, au moment où on lui annonce ce qu'a fait son mari, elle lui apporte encore des vêtements chauds en prison, elle a un temps de latence avant de se désolidariser de son époux. C'est ce même mécanisme qu'on appelle le clivage qui explique la cécité de l'entourage.
Ce qui est troublant dans le clivage, parce que les experts disent toujours ça, ils sont doubles, l'un cache l'autre, etc. C'est 30 ans de crimes, de viol. Gisèle Pellicot, il y a la vie de Dominique Pellicot pendant 20 ans avant, sur des suspicions d'autres crimes. Comment, a posteriori, ses proches, qui n'ont rien vu sur le coup, n'ont plus de petits cailloux blancs pour aider les enquêteurs. Parce qu'au fond, jamais ils aident les enquêteurs, ceux-là. Ils ne sont au courant de rien, même a posteriori. Comment vous expliquez cette cécité aussi longue ?
Je vais vous répondre par une autre affaire que je connais bien également, l'affaire de Véronique Courgeot. Eh bien, pour votre information, tout le monde l'a oublié, mais son mari était mis en examen aussi pour complicité. Parce qu'on lui disait, mais monsieur, ce n'est pas possible que 3 grossesses de votre épouse, vous n'ayez rien vu, vous dormiez avec elle tous les soirs. Et il a fallu des avis concordants d'experts, dont je faisais partie, pour qu'il soit en non-lieu et qu'on admette que Jean-Louis Courgeot n'avait pas pu avoir conscience. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Il faut comprendre que le mental est puissant, aussi bien pour faire des actes atroces que pour les occulter à l'entourage.
La vie de cette femme aujourd'hui, c'est aussi étonnant de la découvrir, de voir ses choix. On va écouter un autre extrait quand elle vous dit aujourd'hui qu'elle a choisi de ne pas divorcer de Dino Scala.
Au départ, ben, tout est confus. Hein. Donc on dit, voilà, je me sépare et tout ça. Puis là, vous regardez, derrière vous, vous en avez 3. Vous dites, je me suis dit, si j'abandonne tout, je laisse les 3 dans une merde, comme je pourrais dire, entre guillemets, pas possible. Et pour moi, c'était inconcevable de laisser mes enfants gérer tout ça. C'était inconcevable. Tout ce que je fais pour mes enfants aussi.
Elle est très forte, cette phrase. Tout ce que je fais, c'est pour mes enfants, qui eux aussi portent le poids de ce qu'a fait leur père.
Oui, tout à fait. Et juste pour différencier, on parle de Gisèle Pellicot, de Véronique Courgeot. C'est une femme qui, ça se passait pas chez elle et elle n'était pas la victime. Donc c'est quand même deux différences énormes. C'était sur le trajet entre son domicile, il partait au petit matin, au tout petit matin, vers 5 heures du matin, quand elle dormait. Et après il allait à l'usine. Donc c'est complètement possible de qu'elle s'en rende pas compte. Donc là, en fait, elle a choisi de rester avec lui, mais sans avoir de vie de couple. Hein. Elle reste pour la famille, pour deux raisons. Elle m'a expliqué, on peut pas se séparer de son papa, pardon, mais on peut se séparer de son mari. Du coup, elle reste pour soutenir ses enfants dans cette démarche-là. Faut voir que pour eux aussi, tout a basculé. Et puis, ils connaissaient la bonne face, on va dire, de leur père. Et ils l'appréciaient, cette face-là. Enfin, c'était leur papa. Et de l'autre côté, Dino Scala travaille beaucoup en prison sur les violences sexuelles qu'il a subies lui étant enfant. Il ne s'en est pas servi comme moyen de défense, il ne les a pas évoquées au procès, mais au procès on avait su qu'il y avait un climat incestueux. Et là en fait il fait tout tout un travail avec une experte psychiatre qui est très bien, visiblement, à la prison de Sequedin. Il fait la technique de l'EMDR, vous savez, cette technique qu'ont utilisé les victimes, notamment des attentats. Et ça lui a permis de ressortir que lui-même avait été victime. Et sur ce plan-là, sa femme me dit « je veux aussi l'aider ».
Un autre extrait que je voudrais qu'on écoute, c'est extrêmement dur, c'est ce qu'elle vit depuis le procès. C'est ce qu'elle vit avec ses voisins, l'entourage, sa famille. On va l'écouter.
J'ai pris des coups, des insultes, jusqu'à une voisine qui a bu une canette, qui s'est approchée de moi, qui s'est fait vomir sur moi.
Elle est devenue la femme du monstre.
Oui, c'est ça, et c'est vrai que c'est aussi ce que je voulais mettre en lumière, en tout cas dans ce podcast, c'est la place en fait des familles, des accusés ou des condamnés qui n'ont pas de place pour la justice, mais qui en fait sont souvent mis dans le même sac que l'accusé ou le condamné, alors que là, en l'occurrence, il n'y a pas d'histoire de complicité, elle n'a jamais été inquiétée pour ça, elle ne savait pas, elle est victime collatérale, bien sûr. Voilà, il ne faut pas confondre avec les victimes premières, évidemment, les dames qui ont été agressées, mais elle est aussi victime à sa manière.
Pour comprendre, Paul Bensoussan, cette violence qui se déchaîne contre elle et contre ses enfants, c'est parce que les gens ont été extrêmement choqués par ce que disait Plan à l'instant, c'est-à-dire un Dino Scala 1 et le Dino Scala 2, c'est ce qu'il a dit au procès, celui qui était entraîneur au club de foot, le bon père, celui qui... Et puis, le monstre qui, au petit matin, dans l'ombre, par derrière, agressait cette jeune femme.
Alors, le Dino Scala 1 est lui-même choqué de ce qu'a fait le Dino Scala 2. C'est-à-dire qu'il continuait de se vivre, lorsque nous l'avons rencontré en prison, comme l'homme gentil et dévoué, l'entraîneur de foot, qui ne compte pas son temps, qui se dédie à la vie de son club, le gentil collègue, le père de famille, etc. Il continue d'avoir cette vision-là de lui. Il ne se reconnaît pas pour la violence parfois extrême dont il a fait preuve vis-à-vis de ses victimes. Il nous dit, bon, je le crois, puisqu'on m'a montré les photos, mais je ne me reconnais pas là-dedans. Tout au plus, j'ai pu donner une ou deux gifles si elle se débattait trop, mais pas plus, pas des coups. Mais pourtant, j'ai vu les visages, effectivement, tu méfies. Il ne se reconnaît pas. Et cet homme qui est, si j'ose cet oxymore, la banalité personnifiée, a pu commettre ses actes sans se reconnaître dans ses actes et sans nier, bien sûr, sa culpabilité.
Vous avez expertisé tellement de grands criminels, tellement de personnalités complexes. Qu'est-ce que vous avez appris à travers Dino Scala de l'humanité, de la part d'humanité qu'on a en nous et de la part sombre qu'on a en nous?
Il y a une citation de Jean Rostand qui me parle énormément et à laquelle je ne connais que deux exceptions dans toute ma carrière. Il disait... Il ne faut pas regarder l'honnête homme de trop près si vous tenez à lui conserver votre estime, ni le scélérat si vous tenez à lui conserver votre mépris. Je peux vous assurer que face à Dino Scala, on a eu des moments authentiquement émouvants, avec des décharges d'émotions. Alors ça va paraître bien sûr dérisoire, mais le moment le plus émouvant de notre entretien, c'était en évoquant son chat Gribouille, qui lui manquait, au point que sa fille lui avait proposé de l'amener au parloir et que Dino Scala a refusé parce qu'il a dit ce serait trop dur. Et il s'effondre en sanglots à ce moment-là, pendant notre entretien. Donc il faut comprendre qu'on doit rencontrer ces personnes-là en laissant de côté nos préjugés pour les approcher au plus près, sinon on fait un travail normatif et presque répressif.
Et on rappelle bien sûr qu'il a été condamné en juillet 2022 pour 54 viols, agressions sexuelles et tentatives de viol. Merci beaucoup Paul Bensoussan, merci beaucoup Plana Radenovic, sur le site d'RTL évidemment, Les Voix du Crime, pour entendre dans la longueur l'interview de la femme de Dino Scala, bravo. Et merci à Demi sur le plateau d'Affaires Suivantes. Merci Laurent, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Affaires Suivantes avec Dominique. À la semaine prochaine.